Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard. Et bienvenue, chers amis, si vous nous rejoignez seulement sur Europe 1. On va parler de santé pendant une heure ce matin autour d'un des organes les plus passionnants du corps humain. Je veux parler du foie, l'organe le plus volumineux, autour d'1,5 kg, mais aussi le plus négligé. Alors que si nous en prenons soin, eh bien nous cultivons notre bonne santé. Ça paraît basique de le dire, mais c'est vrai et c'est ce qui explique et ce qui se cache derrière un certain nombre de maladies du foie. Le foie, super héros multitâche, comme le qualifie un hépato-gastro-entérologue dans un livre, Les pouvoirs cachés du foie. Et pourtant, la mortalité des maladies du foie, essentiellement les cancers, est en augmentation. Alors comment on se prémunit en prenant soin de son foie, en dépistant mieux ces maladies? Quels sont, au-delà, les pouvoirs connus et reconnus de cet organe? On fait le tour de la question ce matin sur Europe 1. Et si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas.
Au standard, le 39-21.
9h-11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et nous en parlons alors qu'au cœur de l'actualité médicale, 1000 experts du foie venus du monde entier se réunissent en ce moment au Palais des Congrès de Paris pour faire le point sur les maladies et sur les traitements associés à cet organe, ce qui va nous permettre de parler de ses pouvoirs avec le professeur Patrick Marcelin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir quitté momentanément le Palais des Congrès pour venir expliciter les choses aux auditeurs d'Europe 1. Vous avez fondé et vous organisez la Paris Hépatologie Conférence. Vous êtes hépatologue à l'hôpital Beaujon de Clichy. Et pour bien parler du foie, sujet qui nous réunit ce matin, il faut nous expliquer sa fonction et ses vertus. Le foie, si on caricature un peu, c'est une sorte de filtre.
Oui.
Et pour que le filtre fonctionne bien, il faut le nettoyer, il faut qu'il soit sain.
Oui, c'est un filtre puisqu'il se situe entre le sang qui vient de l'intestin. C'est un filtre, il élimine toutes les impuretés, toutes les toxines.
Oui.
C'est également une usine de production des... substances qui sont indispensables à la vie et qui irriguent le sang qui sert du foie. C'est un sang riche en nutriments, en protéines. C'est une usine de fabrication de protéines, de facteurs de coagulation. C'est aussi un organe, une espèce de tour de contrôle régule le stock d'énergie, la libération d'énergie quand on en a besoin entre les repas. Et c'est aussi un organe qui joue un rôle important dans l'humeur, sur le psychisme. Quand le foie va mal, on ne se sent pas bien.
Et comment ça se traduit psychiquement? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va
Lorsque le foie commence à aller mal, on peut avoir ce qu'on appelle l'encéphalopathie, c'est-à-dire des petits troubles de la concentration, des petits troubles psychiques, de la dépression, de la fatigue. Et on ne sait pas pourquoi. Parce que le foie est silencieux.
Oui.
Et on peut avoir une maladie chronique du foie. La plupart des gens qui ont une maladie du foie ne le savent pas.
C'est ça.
Alors, ce n'est pas toujours grave, mais il faut penser au foie, il faut savoir l'état de son foie.
Ouais, savoir l'état de son foie, parce qu'on va y venir. En effet, la plupart des maladies du foie sont asymptomatiques et sont silencieuses, assez sournoises, pour les qualifier autrement. Mais intéressant que vous parliez d'usine, de tour de contrôle, de magasin. Finalement, c'est un organe qu'on connaît très très mal. Alors, on l'apprend certes dans nos deux cours de sciences quand on est petit, mais on devrait se mettre à jour, parce que pour le coup, il est au cœur de 500 fonctions vitales, ce foie.
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que le foie est au cœur de l'organisme, il est vital et on le connaît mal parce qu'il est toujours silencieux, il ne souffre pas, il souffre en silence.
Mais quand on se dit, par exemple, quand on dit on se fait de la bile, c'est-à-dire qu'il y a le rapport entre la vésicule biliaire et le foie.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est toutes ces expressions qu'on retrouve dans le monde entier, dans toutes les cultures. Et les anciens avaient compris que quand le foie allait mal, on ne se sentait pas bien. Donc on en fait une jaunisse, on se fait de la bile.
Ah, c'est vrai, oui.
On a mal au foie, souvent d'ailleurs quand on a mal au foie, ce n'est pas le foie. Malheureusement, le foie est silencieux, il souffre en silence. Et
Donc quand on dit crise de foie, c'est finalement
c'est
mal à propos.
C'est une crise intestinale, gastrique.
Oui.
C'est pas le foie.
Le foie
ne fait jamais mal. Donc c'est tout le problème. Tout le problème, c'est si on ne cherche pas. On ne veut pas savoir si son foie fonctionne ou ne fonctionne pas bien.
Oui.
Si on ne fait pas le test hépatique, très simple, on peut passer à côté pendant des années et des années, se retrouver, on va en parler, à un stade avancé de la maladie.
Julie. C'est quoi ce test hépatique? C'est une prise de sang, c'est quoi?
Le test le plus simple et qui est finalement très efficace, c'est le dosage des transaminases. Les transaminases.
D'accord.
Ça doit faire partie de tous les bilans de routine, c'est sur une simple prise de sang. Je dirais que les transaminases, c'est la glycémie du foie. Vous voyez, si le foie va mal, les transaminases montent. Si les transaminases sont normales, le foie va bien. Donc c'est un indicateur et ça peut être un signe d'alarme. Attention, mes transaminases ne sont pas tout à fait normales. Elles sont à la limite supérieure de la normale, elles sont un peu élevées. Il faut faire un bilan. Ça peut être tout à fait bénin.
Et ça peut être une hépatite alors?
Et ça peut être une hépatite chronique.
Voilà.
C'est-à-dire une hépatite qui dure pendant des années et des années. Et il faut pas oublier que ces maladies tant silencieuses, ignorées, non traitées, alors qu'il y a des traitements efficaces, elles évoluent pendant 10, 20, 30, 40 ans et elles peuvent déboucher, malheureusement, sur une cirrhose, quelle que soit la cause, hein, alcool ou un virus, ou la NASH dont on va parler. Et là, les ennuis commencent. La cirrhose est silencieuse, mais déjà, il peut y avoir des complications, un impact, comme on l'a dit, sur le psychisme, sur l'état de santé en général, et puis le risque de cancer du foie, puisque la cirrhose peut dégénérer en cancer du foie. On considère que 5% des personnes qui ont une cirrhose peut faire dans l'année un cancer du foie, 5% par an.
Alors que tout est dépistable, hein, oui, c'est ce que vous dites aussi, ce qui est au cœur de ce grand sommet, de ce grand raout qui réunit les hépatologues du monde entier. On va voir ce que vous nous dites, la nécessité de tests sanguins réguliers, simplement pour faire un petit check-up et pour contrôler son foie, cet organe si important qu'on néglige souvent, alors que la plupart des maladies du foie, on peut les repérer, on peut les soigner à temps. Vous êtes avec nous, professeur Patrick Marcelin, pour parler du foie, de ses impacts sur notre santé, sur notre psychisme, jusqu'à 11h sur Europe 1. Toutes vos questions, le professeur y répond. Profitez-en, consultation gratuite ce matin. A tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, nous parlons des pouvoirs cachés, connus et reconnus du foie.
Absolument, oui. Julie, alors que se tient depuis hier le 12e congrès annuel international sur les maladies du foie, responsable de 2 millions de décès par an, on va voir comment la France est en pointe aussi dans la recherche avec le fondateur, l'organisateur de ce congrès, hépatologue à l'hôpital Beaujon de Clichy, professeur Patrick Marcelin. Alors on fait un petit test, vous mettez vos mains sous les côtes et vous nous dites si le foie est à gauche ou à droite. Moi, je disais à gauche, ça commence bien. Ouais. J'ai regardé le plan à l'envers ce matin. C'est à droite, en fait. Hein.
Il est à droite.
Il est à droite et bien caché sous les côtes, professeur.
Il est à droite. Alors, ce qui est étonnant, c'est que comme c'est un organe, un des organes les plus importants, peut-être le plus important, puisqu'on l'a dit, il régule énormément de fonctions. Donc, tout ce qui est purification du sang, enrichissement du sang, les substances indispensables pour le fonctionnement du cerveau, des muscles.
Il produit
des substances et protéines. Et puis, il a aussi des fonctions hormonales, des fonctions immunitaires. Donc, on sait que c'est important. Tout le monde sait que c'est important, mais on ne sait même pas où il se trouve. Deux tiers des personnes que j'interroge, comme ça, par curiosité, me disent le foie se trouve à gauche, il se trouve à droite. Et pourquoi sous les côtes? Parce que la sélection naturelle fait que il faut que cet organe vital soit protégé par la cuirasse des côtes, par le thorax. C'est pas par hasard. Et donc, un organe le plus gros, sans doute le plus important, et le moins connu, je pense.
Complètement. Avec tous les
il est donc à droite, mais qu'est-ce qu'il y a à gauche alors?
La rate.
Donc quand on a mal à gauche, on a mal à la rate.
Non,
j'ai la
rate.
Qui dit
au colon, c'est ça?
Oui. Généralement, même si qu'on est mal à droite ou à gauche en haut, généralement c'est l'intestin, c'est le colon.
Oui. Et l'intestin, il est en dessous, non?
Il passe pas loin. Il passe, ça
irrigue
juste à côté.
Un peu,
donc le foie ne fait jamais mal. C'est ça le problème. Même s'il va mal, il ne fait pas mal.
Ouais. Et comment regarder s'il va bien, s'il va mal? Vous nous disiez l'importance d'un dépistage avec un simple test sanguin qui est très répandu, hein, le dosage des fameuses transaminases.
Oui.
C'est un peu la glycémie, vous
tout
nous
à fait.
Disiez,
alors, c'est
on
un
doit
test
contrôler.
Qui est simple, c'est une simple prise de sang, hein. C'est un test qui n'est pas cher.
On peut aller dans son labo demander un test transaminase.
Et je dirais, lorsqu'on fait un bilan sanguin, en général, bon, tout le monde le fait une fois par an, une fois tous les deux ans, les transaminases doivent faire partie du bilan, comme la numération sanguine, comme le cholestérol, comme la glycémie. Et je dirais, faire ce test, ça peut rapporter gros dans le sens que on sait, si c'est normal, on est tranquille, le foie ne souffre pas. Si c'est élevé même un petit peu, attention, ça nécessite un bilan plus spécialisé, plus complet, mais assez simple. C'est une échographie du foie, vous savez. Une prise de sang un peu plus complète. Et on peut savoir si c'est une simple souffrance passagère minime, sans conséquences, sans fibrose, sans cirrhose, sans risque de cancer. Ou alors, attention, parfois on tombe tardivement sur une maladie qui dure depuis des dizaines d'années. Et on peut avoir malheureusement la mauvaise surprise de trouver déjà une cirrhose. La cirrhose est silencieuse avant le cancer.
Justement, parce que quand on parle du foie, on parle beaucoup d'hépatite. On va venir à ces différentes maladies du foie. Mais comme l'une des fonctions du foie, c'est de dégrader l'alcool, si on consomme trop d'alcool, le foie ne peut plus filtrer. C'est le début de la cirrhose. Ça veut dire que pour avoir une cirrhose, il faut forcément avoir un bon penchant pour l'alcool, ou on peut avoir une cirrhose sans ça?
Non. Justement, c'est un point très important. Quelle que soit la cause de la maladie du foie, si elle dure trop longtemps, on appelle ça une maladie chronique du foie,
oui.
Quelle que soit la cause, l'alcool ou l'hépatite B ou l'hépatite C ou le foie gras,
d'accord.
Le résultat est le même, c'est la cirrhose.
Et ça se traduit comment, la cirrhose ?
La cirrhose, bah, c'est donc silencieuse, c'est tout simplement ses causes, hein, les hépatites ou l'alcool ou le trop de graisse dans le foie,
oui.
Ça entraîne une réaction de défense du foie. C'est tout à fait normal.
Oui.
Et cette réaction du foie, c'est une inflammation.
D'accord.
Et cette inflammation, c'est elle d'ailleurs qui détruit les cellules hépatiques, qui fait monter les transaminases, parce que d'où viennent les transaminases ? Elles viennent des cellules hépatiques qui sont tuées, détruites, et les transaminases passent dans le sang.
Mm-hmm.
Donc on comprend, plus il y a de cellules hépatiques détruites, plus il y a de transaminases dans le sang. Et le foie, au bout d'un certain temps, lorsque cette bagarre continue, cette agression continue, il va ériger des barrières de sclérose, de fibrose. Hein, on appelle ça la fibrose hépatique. C'est pas très grave au début, parce que si on arrête l'agression, eh ben les barrières vont disparaître, ça va fondre, et le foie va devenir normal. Extraordinaire capacité de régénération.
C'est ça, de régénération.
Et si ça dure trop longtemps, l'inflammation, si la fibrose augmente, la grosse fibrose, c'est la cirrhose. Donc la cirrhose, c'est un engainement par la fibrose des cellules hépatiques qui étouffent les cellules du foie, qui les empêchent de fonctionner normalement, ce qui donne une insuffisance hépatique et ce qui donne éventuellement le gros risque, 5% par an, dégénérescence des cellules hépatiques en cellules tumorales, en cancer.
Oui, cirrhose responsable de 10 à 15 000 décès par an, alors que pour arriver à ce processus si long que vous racontez, il faut quand même une chronicité de, ces maladies, alors qu'on pourrait dépister. C'est le maître mot de ce congrès dont on va parler dans un instant. Patrick Marcellin, ça se tient en ce moment au Palais des Congrès de Paris. Quels sont les pays les plus engagés dans la recherche contre les maladies liées au foie, les cancers, les cirrhoses, les hépatites? Ces maladies qui peuvent être guéries, qui peuvent être prévenues et contrôlées, donc prenez soin de votre foie, ça permet de sauver des vies. Chaque année, on fait le tour de la question jusqu'à 11h sur Europe 1 avec vos questions, chers amis.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
On retrouve Wendy Bouchard et son invité, le professeur Patrick Marcellin, hépatologue à l'hôpital Beaujon de Clichy, les fondateurs et organisateurs du Congrès international des maladies du foie qui se tient jusqu'à ce soir au Palais des Congrès de Paris avec des experts de 70 pays différents.
Absolument. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque pays, son mal du foie, sa maladie du foie, preuve que les maladies du foie sont aussi des maladies de culture et de civilisation. Hein,
tout à fait. Ce sont des maladies qui sont profondément liées au mode de vie. Ce sont des maladies sociétales, finalement. Et on peut distinguer, en gros, si vous voulez, les pays émergents ou les pays en développement, où les virus sont plus fréquents, hein, donc des contagieuses, des maladies contagieuses, hépatite B, hépatite C.
Oui.
Des pays, les pays les plus riches comme les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, où c'est surtout le foie gras.
On va en parler.
Parce qu'on mange trop, on est trop gros.
Oui.
Et bien sûr, les proportions de patients ayant ces différentes maladies, l'alcool également. L'alcool, évidemment, l'Europe de l'Ouest, dans les pays du Nord, on aura plus de maladies alcooliques que dans les pays du Sud.
Une maladie alcoolique qui amène la cirrhose, justement, pour être absolument clair. Quand on a une cirrhose, le foie ressemble à quoi, Patrick Marcellin ? Il est plus gros, il est plus petit, il est atrophié, il est...
Alors, oui, et c'est le résultat de... Ça peut être l'alcool, ça peut être aussi n'importe quelle maladie chronique, le foie gras, l'hépatite B ou l'hépatite C qui dure pendant des dizaines d'années. Mmh. Alors qu'est-ce que c'est que la cirrhose ? Tout simplement, le foie rétrécit, devient atrophique et dur.
Et
on comprend bien sûr qu'il est, un foie, il devient dur, pierreux. Même. Vraiment, si on voit un foie de cirrhose, c'est inquiétant. On comprend très bien que le foie ne peut plus fonctionner normalement.
On ne peut pas le transplanter, on fait des greffes de foie ou pas ?
Oui, tout à fait, mais... On transplante évidemment lorsqu'il y a des complications.
Oui.
C'est-à-dire que lorsque la cirrhose... Il y a deux types de complications de la cirrhose. C'est quand le foie fonctionne vraiment mal et à ce moment-là, on a des troubles de la confusion.
Mmh.
Je reviens au psychisme. Hein. Le foie, puisqu'il régule, enlève les toxines et il produit les bonnes substances dans le sang. Lorsqu'il fonctionne mal, il y a trop de toxines et pas assez de bonnes substances. Donc le cerveau et l'ensemble de l'organisme ne marchent pas bien.
Ah oui.
Et on peut avoir des patients donc, qui sont confus, désorientés. Ça peut aller jusqu'au coma. Bien sûr, ça c'est le stade ultime. Donc ça c'est l'insuffisance hépatique. L'autre complication qui peut survenir avant l'insuffisance hépatique, c'est la dégénérescence maligne de la cirrhose. Parce que cet organe qui est atrophique, qui fonctionne normalement, eh ben, les cellules se transforment et elles deviennent cancéreuses.
Jean-Seb Desmarais nous dit « Petite pensée pour votre émission à Michel Sardou et sa chanson « Mon mal de foie ». Vous la connaissez, Patrick Marcellin, forcément, oui, vous, hépatologue.
Oui, je la connais. Je connais aussi la chanson « Mes copains m'appellent Cirrhose ».
Oui, ouais. Mais je ne sais pas pourquoi Cirrhose, comme bon, si c'était six fleurs.
Ouais, alors voilà. Bon, on en sourit, mais évidemment, ces maladies tuent en France 10 à 15 000 personnes chaque année. Le cancer du foie est un cancer très difficile. D'ailleurs, on se demande un petit peu pourquoi on n'arrive pas à mieux soigner le cancer du foie, alors que vous le disiez vous-même, le foie est l'un des seuls organes qui se régénère. Qui sait vraiment se reconstituer et redevenir sain quasiment ?
Oui, alors le premier point, c'est que c'est vrai que c'est le seul organe qui a une capacité de régénération. Mmh. C'est-à-dire les cellules hépatiques qui meurent, qui sont détruites par un virus, par l'alcool, par la graisse, sont remplacées par des cellules neuves.
Ça, c'est fabuleux. Ouais.
Mais le problème, c'est quand on arrive au stade, vous le comprenez bien, de cirrhose, le foie est rétréci et pierreux, les cellules ne peuvent plus se régénérer. Oui. Elles ne peuvent plus remplacer, puisque c'est un tissu, c'est une cicatrice, le foie ne peut plus redevenir normal.
Voilà pourquoi le dépistage est important, voilà. Qui vous permet de voilà.
D'autant plus que tout ça se passe sur des dizaines d'années et tout ça se passe...
C'est lentement évolutif.
Oui, les patients qu'on voit malheureusement souvent au stade de cirrhose, parce qu'on les voit dans mon service au moment des complications, hein, c'est donc une insuffisance hépatique ou un cancer, ils ne savent pas qu'ils avaient une maladie depuis des dizaines d'années.
Ça peut être... Du coup, c'est-à-dire qu'on peut avoir une hépatite sans le savoir ?
Tout à fait. On peut
mais
avoir attrapé
symptômes.
L'hépatite B à la naissance. Ça peut être transmis de la mère à l'enfant pour l'hépatite B.
Oui, et sans,
pour
et sans symptômes.
C, on a pu être contaminé il y a 40 ans par une transfusion ou par même du matériel contaminé, vous voyez, mal stérilisé. Maintenant, ça n'existe plus, mais ça a beaucoup existé il y a 30, 40, 50 ans. Et imaginez dans des pays... en voie de développement, le nombre de patients qui sont contaminés par l'hépatite B, par l'hépatite C.
C'est gigantesque. Ça se transmet encore sexuellement, ces maladies ?
Alors, l'hépatite C, non. Oui. L'hépatite B, oui. Mais heureusement, il y a le vaccin. Il faut quand même rappeler qu'on a des armes. On a des armes très efficaces. Et donc, pourquoi ne pas les utiliser ? Je suis très heureux, d'ailleurs, que maintenant...
Hépatite B, vaccin obligatoire pour les nourrissons aujourd'hui. Hein.
C'est
parti des 11 vaccins
obligatoires. Parce que l'infection peut survenir très tôt. Dès les premiers jours de vie, puisque la transmission, lorsque les mères sont porteuses de l'hépatite B, elles peuvent transmettre le virus lors de l'accouchement à leur bébé. Donc la vaccination doit être faite en urgence, dans les 12 heures qui suivent l'accouchement, pour bloquer le virus, empêcher le virus d'infecter le foie du nouveau-né.
D'accord.
Donc la vaccination, on l'a d'ailleurs... il y a des grandes campagnes de vaccination dans le monde entier. Mmh. Et on voit déjà l'effet. C'est très intéressant. En Chine, par exemple à Taïwan ou à Hong Kong, déjà on voit le nombre de cancers qui diminue extrêmement rapidement depuis 10 à 20 ans parce qu'ils ont une campagne très efficace de vaccination.
Patrick Marcellin, on fait le point sur ces différentes maladies, sur les traitements associés, sur les espoirs de la recherche. C'est ce que vous avez fait, vous, et ce que vous faites jusqu'à ce soir au Palais des Congrès de Paris. Merci de vous être extirpé de ces réunions pour une heure et pour porter cette bonne parole aux auditeurs d'Europe 1. Quelles ont été les avancées de l'année 2018 sur le sujet, avant de parler d'une autre maladie du moment, la maladie du foie gras. A tout de suite avec vous, Julie, et nos auditeurs au standard.
39-21. Retour sur notre sujet du jour, le foie, les maladies du foie, le foie méconnu.
Et le foie méconnu avec une actualité qui nous préoccupe. C'est au Palais des Congrès de Paris qu'on en discute aujourd'hui avec 1000 experts de 70 pays du monde. Constat assez inquiétant sur la mortalité des maladies du foie liées au cancer, liées aux cirrhoses, qui est en augmentation. Alors que ces mêmes maladies, on vous le dit avec le professeur Marcellin depuis quelques minutes maintenant, contrairement aux autres maladies chroniques, peuvent être guéries. Prévenu et contrôlé. Alors, puisqu'il y a des pathologies plus aiguës selon certains pays, dites-nous quelles ont été les avancées fortes de cette année 2018, parce qu'on parlait tout à l'heure des vaccins assez miraculeux, professeur.
Oui, alors je crois que le grand tournant, puisque l'objectif de ce congrès, c'est de reprendre toutes les informations, toutes les nouvelles données, les nouveaux résultats de l'année précédente.
Oui.
Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Qu'est-ce qu'on a discuté lors de ce congrès? Je crois que une des principales avancées, c'est l'arrivée de nouveaux traitements contre le cancer du foie. Mmh. Jusqu'à présent, très peu de patients pouvaient être traités pour, avec un traitement curatif, guérir de leur cancer du foie, de l'ordre de 10% des malades maximum, parce que le diagnostic était trop tardif. Et le seul traitement disponible, efficace, c'était soit la chirurgie, enlever la tumeur, soit transplanter le foie cancéreux et mettre un foie sain. Bien sûr, ce n'est possible que si les patients sont en bon état général et le cancer pas trop gros. Malheureusement, souvent, on dépiste, puisqu'il est silencieux, le cancer du foie trop tard. Alors, les résultats récents montrent qu'il y a des médicaments qui peuvent stopper l'évolution du cancer, voire le faire régresser, voire le faire disparaître. Mmh. Alors, il est un peu tôt en termes de cancer, vous savez, il faut toujours du recul pour crier victoire. Mais en tout cas, c'est un progrès considérable. Ça veut dire qu'avec des traitements, ce qu'on appelle l'immunothérapie, c'est très simple, c'est utiliser des anticorps qui se fixent sur les cellules cancéreuses et qui vont stimuler la réponse immunitaire qui va détruire les cellules cancéreuses. Elles sont marquées, ce sont des espèces de petits missiles qui vont se diriger de manière sélective, spécifique sur les cellules cancéreuses et qui vont épargner. Il n'y aura pas de dommages collatéraux.
Ah, très bien. Donc, c'est microchirurgical
dans la frappe. Exactement, c'est des micro-frappes. Les résultats sont spectaculaires. On a plus de 50% des patients qui ont une rémission et voire une disparition de la tumeur.
Tous les messages arrivent en même temps. Patrick Marcelin, je vais essayer de donner la parole à chacun d'entre vous. Gilda et Laurence, dans un instant. Patricia nous écrit de Montailleur. Y a-t-il un rapport entre le foie et la lymphe ?
Non, pas vraiment. Non, puisque bien sûr, dans le foie, il y a de la lymphe comme dans tous les organes, mais le foie est un organe qui est très vascularisé par des artères, des veines, peu de lymphatiques.
Nos auditeurs arrivent dans un instant. Vous nous dites, les amis, quand ils sont au standard, Gilda et Laurence, une autre maladie dont il faut parler avec une abréviation anglaise, la NASH, la maladie du foie gras. C'est l'hépatite la plus fréquente et la première cause de transplantation, notamment aux États-Unis. Alors ça, c'est lié complètement à notre malbouffe, Patrick,
c'est
pas Marcelin.
Oui. Alors c'est vrai qu'il y a une espèce d'épidémie, il y a une augmentation très importante et rapide de la maladie du foie gras. Alors, il faut bien distinguer la maladie du foie gras, qu'on appelle stéatose en langage médical. Il faut distinguer les cas bénins, c'est quand même 80% des cas. Il y a de la graisse dans le foie, il n'y a pas d'inflammation, donc il n'y a pas d'hépatite. Mm-hmm. Et c'est une question de régime, c'est une question d'exercice, enfin de bien manger, équilibré, bon, donc des conseils classiques. Ça, c'est complètement réversible et ça ne peut pas donner de cirrhose.
Voilà, on désintoxique le foie avec
l'autre
un mode
forme de
vie
la
plus
maladie
sain.
Qui est plus rare, mais du fait de, puisqu'il y a un Français sur 5 qui a de trop de graisse dans son foie.
C'est un Américain sur 3 qui est obèse. Voilà. C'est lié aussi.
Donc, si on prend 100 cas de foie gras, il y a 20 à 30% qui ont. La graisse entraîne une réaction inflammatoire. Et l'inflammation, ça veut dire que ça peut évoluer vers la cirrhose et le cancer du foie. Donc c'est en train de devenir la principale cause, c'est la principale cause de transplantation hépatique en Occident, aux États-Unis mais aussi en France. Et c'est en train de devenir très préoccupant en termes de nombre de cirrhoses et nombre de cancers. Parce que, évidemment, comme vous l'avez bien compris, il faut des dizaines d'années pour que la maladie évolue vers la cirrhose puis le cancer. On ne fait pas de cancer sans cirrhose. Et ce phénomène de malbouffe, de ce problème de société, de sédentarité, il existe déjà depuis 20 à 30 ans. Donc plus le temps passe, plus on a de cas,
évidemment.
Et plus les cas s'aggravent.
Et voilà, et c'est manifeste aujourd'hui. La NASH, notamment, retenez cet acronyme. Nous sommes avec le professeur Patrick Marcelin, Gilda et Laurence. Vous avez la parole juste après la pause. On parle du foie, de ses pouvoirs cachés, des maladies liées au foie et de la manière dont on peut y remédier. À tout de suite avec vous, Julie, et vos réactions sur Twitter également. On les attend. Hein.
Avec le hashtag Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous poursuivons notre émission consacrée au foie, les pouvoirs cachés du foie, à l'occasion de ce congrès international du foie qui se tient jusqu'à ce soir à Paris, au Palais des Congrès.
Nous sommes avec le professeur Patrick Marcelin, qui est hépatologue, fondateur et organisateur de ce congrès. Je sollicitais les réactions, les questions de nos auditeurs au standard. Pardonnez-nous, il y a un petit problème de standard, donc vous n'arrivez que maintenant, chers amis. Nous sommes avec Laurence et Gilda. Bonjour Laurence, et merci de nous rejoindre. On vous écoute, madame.
Merci d'accueillir mon appel et merci docteur de pouvoir éventuellement me répondre. Bon, je suis la maman d'une grande fille handicapée qui a 44 ans et lors d'un bilan sanguin que j'avais demandé complet, on s'est aperçu qu'elle avait un taux de gamma GT très élevé il y a deux ans, 247. Donc, on a été un petit peu alarmés, et moi particulièrement. Donc, le médecin a prescrit une échographie qui s'est révélée tout à fait normale.
Oui.
Et puis, on a essayé de voir, elle ne prend aucune consommation d'alcool, aucun médicament. Donc, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire. Elle a pris du Légalon et du Desmodium à titre naturel. Et le taux a baissé peu à peu jusqu'au mois de juillet de l'année dernière où il est tombé à 90. Et là, il est remonté à 150. Alors, les médecins me rassurent, enfin, le médecin traitant me rassure. Mais bon, voilà, je voulais avoir l'avis du professeur.
Alors, taux de gamma GT, d'abord, il faut nous expliquer ce que c'est, professeur. Parce que tout à l'heure, vous nous parliez du test transaminase pour savoir si le foie va bien ou pas bien. On n'a pas entendu parler de taux de gamma encore.
Oui, parce que le test le plus spécifique et le plus sensible, ce sont les transaminases.
D'accord.
Ça s'appelle d'ailleurs généralement, le médecin prescrit ce qu'on appelle ASAT et ALAT. Ce sont deux transaminases. Donc,
d'accord,
si vous voyez sur l'ordonnance ASAT,
c'est
ALAT, sur le résultat de votre laboratoire ASAT,
oui,
ALAT,
c'est ça,
ce sont les transaminases.
Hein.
Mais alors, le point important, c'est qu'en effet, il y a l'autre test, la gamma GT, mais ce test est beaucoup moins spécifique.
Mm-hmm.
Il peut être augmenté par des choses tout à fait bénignes. Alors, ça peut être des médicaments, mais ce n'est pas le cas, visiblement, dans ce cas-là. La principale cause, en dehors de l'alcool, c'est la surcharge pondérale. C'est-à-dire que quand...
Qui n'est pas le cas.
Alors, il y a d'ailleurs, on sait, il y a de nombreuses personnes qui ont la gamma GT un petit peu élevée, qui fluctue,
oui,
et c'est complètement bénin, mais il faut vérifier que les transaminases ASAT et ALAT sont bien normales, parce qu'à ce moment-là, on revient à ce qu'on a dit, le signal d'alarme, ce n'est pas la gamma GT, ce sont les transaminases.
C'est ça.
Et il faut faire une échographie du foie, ce qui a été fait. Si l'échographie du foie a été faite, c'est normal. La seule petite chose, mais là c'est je dirais une considération plus spécialisée, il y a une chose qu'il faut aussi vérifier, c'est si ce n'est pas une rétention biliaire. Et il faut que le médecin a dû faire un autre test hépatique qui est plus pointu, c'est le dosage des phosphatases alcalines. Parce que si la gamma GT est élevée, les phosphatases alcalines sont élevées, il y a un problème, ouais, qui n'est pas une hépatite, il y a un problème de rétention de bile.
Alors c'est un peu technique, mais je pense que Laurence, vous savez de quoi veut parler le professeur. Ouais. Et en tout cas, vous êtes sur le fond.
Parce que j'ai des analyses sous les yeux.
Voilà.
Donc, qui
est plutôt rassurant, comme vos
gamma
médecins
GT
le sont.
Gamma GT élevée, transaminase normale, c'est rassurant.
Merci, merci Laurence. Voilà, on espère vous avoir rassuré. Double diagnostic, si j'ose dire. Nous sommes avec Gilda au 3921. Vous nous appelez de Jouarre Pontchartrain. Bonjour monsieur.
Non, je suis une femme, mais c'est pas grave.
Alors, vous, c'est Christelle,
bonjour.
Pardon. C'est Christelle?
Non, c'est Gilda.
C'est Gilda, pardon,
Gilda,
excusez-moi.
Sans le S.
Ah, excusez-moi, Gilda, bah oui, parce que voilà.
Alors,
Gilda,
bonjour,
bonjour
à
madame.
Tous mes voeux pour cette nouvelle année à tous.
Eh bien, qu'elle vous porte de belles choses aussi, Gilda.
Merci. Je vous appelle parce que mon papa a été diagnostiqué il y a très peu de temps pour le foie gras, justement. On disait foie gras,
oui,
foie paresseux.
Oui.
Mais ce qui nous inquiète et nous préoccupe, c'est que nous n'avons pas eu de préconisation, ni de suite, ni rien. C'est juste un diagnostic qui est posé et rien de plus. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des solutions pour soigner ce problème.
Professeur Patrick Marcelin, vous écoutez,
oui,
vos réponses.
Alors, le foie gras, c'est très fréquent, hein, du fait de la sédentarité, souvent de la prise de poids, le diabète aggrave ça. Le foie se remplit de graisse, est surchargé en graisse. C'est dans 80% des cas bénin, dans 20% des cas, ça peut être inflammatoire, ce qu'on appelle la NASH, non-alcoolique stéatose hépatite. Alors que la stéatose pure sans hépatite, c'est pas grave. Donc, il faut, c'est la difficulté. Il faut savoir s'il s'agit d'un foie gras méchant ou d'un foie gras sans risque.
Et pour le savoir, comment on fait ?
Et pour le savoir, il faut faire un bilan hépatique plus complet et il faut faire une échographie du foie. Ben, l'échographie, c'est pour voir l'état du foie.
Oui.
Et mesurer, chercher s'il y a déjà de la fibrose dans le foie. Fibrose dont on parlait, ce tissu cicatriciel.
Ça, on le voit à l'échographie.
On peut le voir à l'échographie, mais un peu tard.
Oui.
Il y a un examen qui est très simple, qu'on fait de plus en plus. C'est on mesure l'élasticité du foie.
D'accord.
Avec une espèce d'échographie, une sonde particulière. Et si le foie est très élastique, c'est normal. Le foie est souple.
Mm-hmm.
S'il commence à durcir, hein, c'est qu'on se dirige vers la cirrhose. Ça veut dire que déjà, il y a de la sclérose, de la fibrose. Donc, dans le cas de votre papa...
Vous recommandez que ces examens soient faits hein, pour
voilà,
que...
Il faut compléter l'examen par une échographie du foie, un bilan sanguin plus complet pour voir si le foie fonctionne bien.
Hein. Oui.
Donc, ça, c'est plus spécialisé. Et puis, une élastométrie, c'est un examen d'ailleurs qu'on a inventé en France il y a une quinzaine d'années, et qui a maintenant été diffusé dans le monde entier. C'est le meilleur moyen de regarder dans le foie, ouais, non seulement la quantité de fibrose, le risque de cirrhose, mais aussi on peut quantifier la quantité de graisse.
Voilà,
donc on a deux importations.
Vous avez pris les notes, hein.
Deux informations
oui,
importantes.
Oui, élastométrie et puis échographie.
Voilà.
Et
voilà. Comme ça, qui dépiste bien, guérit bien. Donc, voilà.
80% des cas, c'est bénin, je vous rassure.
Bon. Merci Gilda pour votre appel et bonne année à votre papa. Donc prenez ses résolutions de santé, votre appel en témoignait. On se retrouve dans un instant avec Christelle qui veut vous poser une question également, professeur Marcelin, alors que se tient à Paris... Palais des congrès, un grand congrès sur les espoirs, les traitements, sur toutes les maladies du foie, le foie organe vital, au cœur de 500 de nos fonctions vitales précisément, mais organes souvent négligés. On fait le point avec vous encore quelques instants. En plein congrès international sur les maladies du foie, un congrès qui se termine ce soir à Paris, on s'interroge comment mieux prévenir ces pathologies sur un organe silencieux, comment dépister des maladies comme l'hépatite. À suivre, questions et témoignages d'auditrices de nouveau, Christelle et Nathalie, avec vous, professeur Patrick Marcelin. Disons encore un mot du congrès du jour, mais surtout de la campagne de dépistage que porte votre association pour la recherche, pour l'éducation en destination des jeunes hépatologues et du grand public, campagne de dépistage fondamentale pour enrayer cette mortalité liée à ces maladies du foie.
Oui, tout à fait. Il y a un consensus parmi tous les experts du monde entier et d'ailleurs l'OMS a recommandé ce dépistage systématique.
Oui.
Pourquoi de l'hépatite C, pourquoi? Parce que l'hépatite C est fréquente, hein. Il y a encore dans le monde environ 100 millions de personnes qui ont l'hépatite C, qui ne sont pas traitées. Et en France, on considère qu'il y a 70 000 à 100 000 personnes dans la nature
porteuses,
qui sont porteuses de l'hépatite C, qui ne savent pas.
Ouais, ouais.
Il n'y a pas de symptômes, on ne sent rien. Donc, si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Alors,
et
dans
on,
l'hépatite
on est,
C, là, je dirais qu'on sait. Les derniers résultats de l'année dernière, les tout nouveaux résultats montrent que maintenant, c'est du 100% de guérison. Un traitement avec des comprimés,
oui,
très bien toléré, pas d'effets secondaires. Guérison, ça veut dire disparition totale du virus de l'organisme. Et là, on prévient complètement le risque de cirrhose et de cancer. Alors, pourquoi ne pas dépister? Donc, il y a une grande campagne mondiale. Mmh. Et en France, nous sommes, il faut avouer, vraiment en avance par rapport à beaucoup de pays. Le dépistage a été fait, mais il faut continuer ce dépistage.
Dépistage systématique pour l'hépatite C.
Voilà, l'hépatite C. Et je dirais en même temps l'hépatite B.
Oui.
Car un virus peut en cacher un autre. Mmh. Donc, puisque ce n'est pas tout à fait les mêmes causes de contamination. Hein, on a dit que l'hépatite B, c'est surtout transmission de la mère à l'enfant,
oui,
à l'accouchement. L'hépatite C, c'est plutôt la transfusion ou le matériel contaminé ou les injections de drogue intraveineuse. Mais dans tous les cas, même différents virus, même évolution, même risque, cirrhose et cancer, faites-vous dépister. Pour le test hépatite C, le test hépatite B.
Merci d'échanger
une fois dans
aussi
votre vie.
Voilà, le dépistage et le bilan sanguin régulier pour votre taux, oui, de transaminase qui vous indique si votre foie est en bonne santé ou pas, parce que les maladies liées au foie sont des maladies sournoises et asymptomatiques. Christelle est avec nous de Montbozon au 3921. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous vouliez témoigner et questionner, je crois, notre invité.
Oui, tout à fait. Donc voilà, moi j'ai 38 ans. Mm-hmm. J'ai eu une hépatite B quand j'avais 15 ans.
Oui.
Donc, en guérison clinique 4 mois plus tard.
Oui.
Et ma question est la suivante. En fait, depuis, on me dit, mais sans me donner d'explication, que je ne peux plus donner ni mon sang, ni mes organes.
Ah.
J'aimerais savoir pourquoi, sachant que j'ai eu 2 enfants et que j'attends le troisième, et que moi, mes questions, c'était est-ce que je risquais de contaminer mes enfants, et pas du tout.
Et qui sont parfaitement
sains.
C'est
pas le cas, d'ailleurs.
Oui.
Voilà, donc je voudrais juste comprendre pourquoi, parce que je serai donneuse de sang et d'organes d'ailleurs, donc je voudrais essayer de comprendre pourquoi.
Christelle,
pas oui, alors, deux questions. La première question, pourquoi vous ne pouvez pas donner votre sang alors que vous avez fait une hépatite aiguë B et vous avez guéri? Votre sang ne contient a priori pas de virus, vous n'êtes pas contagieuse, mais vous avez des anticorps contre l'hépatite B, des anticorps qui sont des anticorps dus à l'immunisation, vous êtes protégée contre l'hépatite B. Et on ne peut pas se permettre, les transfuseurs ne prennent jamais du sang, lorsqu'il y a des anticorps antivirus, même si ce sont des anticorps qui correspondent à une guérison. Donc c'est réglementaire.
D'accord.
C'est réglementaire. Donc
pour
quand
les
on
organes,
a des anticorps contre l'hépatite B ou l'hépatite C,
oui,
on, même si on n'a pas de maladie, on ne peut pas donner son sang.
Bon, en tout cas, votre générosité vous honore. Mais pour les organes, est-ce que c'est pareil?
C'est pareil pour les organes.
Ah, oui.
C'est pareil pour les organes. Alors, l'autre point qui était soulevé, c'était pour votre hépatite B, pour savoir si elle est vraiment guérie. Il y a une chose toujours à faire, parce que quand on fait une hépatite aiguë B, on peut guérir dans 90% des cas, mais dans 10% des cas, on garde le virus pendant des années et des années, on appelle ça une hépatite chronique. C'est sans doute pas le cas chez vous, madame, mais bien sûr, on fait toujours un test, c'est le test de dépistage de l'hépatite B, ça veut dire l'hépatite B toujours présente. On recherche l'antigène de l'hépatite B, l'antigène HBS. L'antigène HBS est négatif, pas d'hépatite. Des anticorps, c'est très bon.
Eh bien, voilà, merci beaucoup pour votre question et votre témoignage. Nathalie, pour terminer, est avec nous du Boupère. Bonjour, 3921. Bonjour Nathalie.
Bonjour, bonjour.
Vous avez une question pour le professeur Marcelin, Nathalie.
Oui, alors moi, j'ai eu deux prises de sang avec des taux de transaminase, azate et alate trop élevés, hein, autour de 70 et 93, et avec un taux de triglycérides et de gamma-GT qui sont normales. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que je peux faire pour la suite, qu'est-ce qu'il faut faire comme analyse et pourquoi elles sont trop élevées, quoi. Voilà.
Patrick Marcelin.
Alors, il y a deux étapes quand on met en évidence donc, une élévation des transaminases. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans le foie. En général bénin, mais pas toujours, on l'a dit. Donc, il faut donc clarifier la situation. La première étape, c'est de chercher la cause. On cherche les hépatites, d'abord. Première cause, hépatite C, on en a parlé.
Oui. Je ne sais pas si vous êtes vaccinée, Nathalie.
Les deux tests. On cherche, évidemment, la consommation d'alcool. Elle est plus ou moins avouée. Parfois, on boit plus qu'on ne pense, mais il faut vraiment une consommation d'alcool très importante pour avoir des transaminases élevées. Et puis, il reste après le diagnostic d'élimination, c'est le foie gras. Et donc, deux examens importants, en dehors des recherches dont on a parlé, c'est l'échographie et l'élastométrie.
Voilà.
Comme ça, madame, vous saurez si la cause la plus fréquente en ce qui vous concerne, ça peut être le foie gras. Après, ce sont des causes rares dont on n'a pas le temps de parler. C'est affaire de spécialistes.
Merci. Merci, monsieur l'hépatologue, d'avoir répondu avec précision à nos différents auditeurs et auditrices comme Nathalie, que je remercie pour son appel. Hépatologue à l'hôpital Beaujon de Clichy. L'APHC, c'est votre association. Le dépistage systématique, vous le souhaitez notamment pour hépatite B, hépatite C. Et les bilans sanguins réguliers pour prendre soin de notre foie, dont vous en avez prouvé la fonction essentielle, la fonction vitale. Merci pour ce tour de la question très clair, précis.
Merci.
À bientôt, professeur. Bon congrès. Et que la recherche suive pour cette année 2019. À demain, ma chère Julie.
À demain, c'était Wendy Bouchard. Dans un instant, Anne Roumanoff.